Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, chers auditeurs, vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Et donc, nous recevons Nanoucha von Morkerkeland, j'étais presque, écrivain, donc romancière, qui publie son troisième roman qui s'appelle Honoré. Et vous l'aurez compris, le Honoré est donc un des derniers à appartenir à cette race de paysans français en voie de disparition. Mais c'est l'heure maintenant de la chronique de Romaric Sangars. Alors, cher Romaric, vous voudriez revenir avec nous sur la dernière cérémonie des Victoires de la Musique, qui a eu lieu vendredi dernier, donc le 13 février. Et je ne savais pas que vous passiez vos soirées devant ce genre d'émission.
Oui, cher Arthur, et non, je ne passe pas mes soirées devant ce genre d'émission. Je ne l'ai pas suivi, si ce n'est dans ses échos médiatiques et sociaux réticulaires, si je peux m'exprimer ainsi avec un rien de pédanterie. Mais j'aimerais pourtant l'évoquer à nos auditeurs. En effet, depuis ma découverte du concept de cathédrale tel qu'il a été élaboré par Curtis Irvine, le néo-réactionnaire américain, ce genre d'événement, en tant qu'il en est une exemplaire démonstration, a repris un intérêt pour un esprit comme le mien qui n'en éprouvait plus la moindre curiosité. La cathédrale, c'est ainsi que les néo-réactionnaires nomment l'ensemble des institutions et relais éducationnels, universitaires, médiatiques et culturels qui composent une grande architecture théologique de gauche destinée à conditionner le peuple et ses représentants après avoir délimité le champ du pensable et de l'impensable. Ce concept permet de comprendre comment des idées cultivées à Harvard, bien qu'absurdes, comme celle de l'hérésie manichéenne ou wokiste, sont reprises à Yale et finissent dans les séries de Netflix après avoir été distillées au collège et subventionnées au théâtre ou dans le moindre festival de court-métrage. Tout cela sans complot à proprement parler, mais plutôt par la constitution fantôme d'un pouvoir théocratique officieux s'auto-radicalisant depuis trois décennies. Dans cet ensemble, les cérémonies comme les Molières, les Césars ou les Victoires font figure de Nuremberg progressiste. L'art n'y est plus qu'un prétexte pour exalter les vertueuses à la mode, transidentité, antipatriarcat, animalisme, néo-féminisme enragé et antiracisme sournoisement raciste.
Alors, on comprend bien le concept de cathédrale. Mais alors, quel est celui d'un antiracisme sournoisement raciste ?
Bien, c'est l'antiracisme dominant dans la logique postmoderne. Si l'antiracisme moderne promouvait l'aveuglement à la question de la race, l'antiracisme postmoderne, qui tient l'attitude colorblind, aveugle à la couleur de peau, comme relevant d'un déni de dominant, promeut au contraire une obsession raciale selon laquelle les blancs et assimilés seraient sommés de rembourser aux racisés une dette morale visiblement impossible à apurer, condamnant donc les autochtones d'Occident à pousser tel Sisyphe le rocher de leur supposée culpabilité historique jusqu'au sommet d'une pente dont ce rocher redescendra sans cesse jusqu'à la fin des temps. Ainsi, les êtres se voient-ils essentialisés dans des rôles de bourreaux et victimes éternels et aliénés à une dialectique infernale, et l'homme ou la femme de gauche s'en trouve satisfait puisque tels sont les repères qui lui conviennent. Voilà en tout cas la grille de lecture dont il faut disposer plutôt que de goût et d'oreilles subtiles pour comprendre les enjeux et les verdicts d'une cérémonie comme celle des Victoires de la Musique en 2026, où triompha donc la chanteuse Théodora, récompensée 4 fois pour sa soupe mondialisée, enfin plutôt en dépit de sa soupe mondialisée en français approximatif, pour des raisons éminemment idéologiques, en raison d'un racisme positif, réparatoire, qui mua la jeune femme moyennement talentueuse en égérie de la gauche culturelle, comme l'a très bien analysé mon confrère Louis Nadeau dans les pages de Marianne, avant d'entreprendre une critique implacable de ses productions sur le plan purement musical. A-t-on le droit de ne pas aimer Théodora sans être traité de réac ? Demandait quelques jours plus tard Thibaut Solano dans le même magazine. Une question vite répondue, comme le dirait un célèbre coach microcapitaliste. Non, évidemment, puisque cette chanteuse, comme la cérémonie qui la couronna 4 fois, n'ont plus grand-chose à voir avec l'art, mais tout avec l'idéologie.
Et le reste du palmarès ne nous a pas convaincus non plus.
Eh bien, le chanteur Sam Sauvage a reçu la récompense de la révélation masculine de l'année. Notre collaborateur Emmanuel Daumont avait exprimé dans les pages de l'Incorrect son scepticisme à l'égard de l'enthousiasme que suscitait ce sympathique garçon et sa chanson française pauvre et faussement renouvelée. Mais enfin, il n'y a pas non plus de quoi hurler. Eh bien, figurez-vous que si le triomphe de Théodora a poussé le patron du Parti Socialiste Olivier Faure à tweeter quelle était la fierté de la France, manière de dire que la fierté de la France était de pouvoir afficher un visage progressiste sur le podium de la chanson, c'est-à-dire, selon les nouvelles logiques woke, un visage noir, la petite médaille de Sam Sauvage, elle, vaut depuis à son récipiendaire des torrents d'insultes sur Internet et jusqu'à un crachat à ses pieds alors qu'il prenait le métro. L'un des moteurs principaux de cette haine virale serait sa couleur de peau. D'après certains internautes, et bien que seule la moitié des trophées des victoires aient été attribués à des artistes non racisés, c'est-à-dire blancs, ce serait en raison de son type caucasien que le petit Sam aurait été récompensé, tout blanc étant suspect, voire coupable, selon la logique néo-progressiste, de bénéficier en permanence de privilèges invisibles et insupportables, tout blanc récompensé volant le racisé dont il est le débiteur. La déception qui a pu susciter cette récompense et la violence de cette déception ne peuvent se comprendre que selon cette logique, d'autant que le niveau général des musiciens invités vendredi dernier n'appelait pas à une intransigeance de mélomane.
Aucun chanteur n'a donc trouvé grâce à vos oreilles. Rémi Kerlu m'a dit juste hier que, par exemple, This is la peste, mais il l'avait adoré et qu'il le tenait pour, je le cite, lui, hein, le plus grand poète français vivant.
Eh bien, laissons à Rémi Kerlu cette sentence, cher Arthur. J'aurais bien voulu voir Mickey récompenser cette chanteuse franco-coréenne dont Marc Obregon nous disait dans l'Incorrect, l'hiver dernier, qu'elle allait faire un tabac qu'elle a fait depuis, mais pas jusqu'à décrocher une victoire. Pourtant, l'inventivité de ses morceaux, l'originalité de leur structure, leur potentiel narratif et dramatique, la singularité de ses textes, la modernité de son expression intime et sans filtre, tout cela lui aurait bien mérité quelques reconnaissances officielles. Mais que voulez-vous ? À demi-asiatique, sur le marché victimaire woke, c'est presque blanc. Mickey n'avait donc aucune chance de gagner.
Merci Romaric Songar. C'est vous, cher Nanoucha, vous regardez les victoires de la musique ?
Non, j'ai pas la télé.
Vous allez écouter Théodora, voilà, parce qu'il a été primé 4 fois, et D6 parce que Rémi Kerlu aime bien. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté. Revenons donc à votre livre, Honoré, cher Schmidi. Donc Honoré, je rappelle, est ce paysan éleveur en Causse, 1000 hectares, tout ça, plein de choses, il lui arrive plein de trucs, mais plutôt tragique en effet, parce que bah, c'est une... Comme dire, j'allais dire un métier, mais c'est pas vraiment un métier. Cette relation entre l'homme et la nature, donc en effet ce mode de vie ancestral qui a fait que nos paysages ressemblent à nos paysages aujourd'hui, puisque l'homme y est aussi pour quelque chose, est en voie de disparition. Et donc, vous en avez parlé un peu plus tôt, en effet des normes et de la bureaucratie, des contrôles de plus en plus nombreuses. Et vous écrivez, Honoré prenait la mesure de la tragédie, mais il y a une chose à laquelle il ne tenait plus encore, c'était la faculté d'exercer son art selon ses propres règles, et éventuellement de désobéir. Est-ce qu'Honoré et les autres sont-ils les derniers hommes libres ?
Le sont-ils encore ? En tout cas, c'est de là qu'il pourrait tirer son prestige et sa gloire. Il y avait quelque chose de très beau, même dans les gilets jaunes, dans cette revendication qui consistait à vouloir vivre dignement des fruits de son travail. Il y a un petit peu de ça aussi chez Honoré, simplement laissons-les vivre. Et c'est vrai que si au présent du roman, qui se déroule sur du matin jusqu'au soir, sur une journée, un chapitre sur deux, les souvenirs visitent Honoré, traverse le ciel de son esprit comme des oiseaux, il a sous les yeux 50 ans d'évolution des campagnes françaises. Et s'il a plus de 70 ans aujourd'hui, il n'est pas invraisemblable de penser que son grand-père faisait les foins à la main. Peut-on simplement supporter saut quantique aussi impressionnant dans une seule vie humaine ? Alors évidemment, bah oui, les règles d'abattage... Le fait de boucler les veaux, etc. Ça, c'est un peu abstrait pour lui.
Rémi.
Justement, quel regard pose-t-il sur le grand changement, la grande bascule des campagnes françaises qu'un célèbre sociologue avait appelé la fin des paysans, la naissance du métier d'agriculteur, du fait qu'on est passé d'un mode de vie éternel, de l'ordre éternel des champs, à une profession. Quel regard, lui, cet Honoré pose-t-il sur ces changements accompagnés par notamment la mécanisation?
Alors c'est difficile de répondre parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui diraient qu'il y a aussi des choses très louables là-dedans, qui s'en sortent, qui ont des fermes qui tournent avec des bons rendements, enfin qui sont rentrés de plein pied dans la modernité et qui s'en réjouissent. Pour autant, nombre d'entre eux m'ont dit que ce qui avait changé le plus, c'était l'entraide dans les campagnes. Avant, on abattait le cochon sans même se prévenir, tout le monde était là. Même si le jour changeait d'une année sur l'autre, le rendez-vous semblait inscrit dans la trajectoire de la Lune. Quoi. Et donc, il y a plusieurs types maintenant de paysannerie qui coexistent les uns avec les autres. Peut-être que c'est ça qui a le plus changé.
Mais vous pensez que ce sont encore des paysans ? Enfin, que ce mot est encore approprié ?
Oh oui, dès lors qu'on vit à ce point, avec les saisons, avec la météo, avec le rythme du au rythme du vivant, oui, bien sûr. Surtout dans une France comme la nôtre, qui est, c'est le pays du Small is Beautiful, qui est quand même pleine de diversité, de paysages, de par nature, par, les, par le panorama même de petites exploitations. Oui.
Romaric, son garce.
Oui, mais je voulais revenir avec vous sur votre ton, le ton Nanoucha Van Moerkerkenland.
Ah, il a réussi à le dire.
Je suis entraîné aussi grâce à toi. Parce que ce qui est très étonnant, on pourrait croire, on parle comme ça au lecteur, cette idée de dernier jour d'un paysan dans la paysannerie française actuelle avec toutes ses difficultés et ses drames, alors même que son monde ne va pas se poursuivre. Il y a quelque chose d'infiniment crépusculaire, hein, c'est en soi comme thème, je veux dire. C'est un peu la chute de la maison Hoscher, sauf que la maison Hoscher, c'est le champ. Et pourtant... il y a quelque chose, mais il y avait déjà ça dans Le Cœur Content, où le sujet était grave, mais le ton est extrêmement vif, extrêmement pétillant. Il y a quelque chose de presque, pas toujours de joyeux, il faudra qu'on lise un petit passage d'ailleurs tout à l'heure, qui est très beau, qui est très poignant. Il y a des moments qui sont très durs, très violents, mais globalement, il y a quelque chose, il y a cette indulgence dont vous parlez, mais il y a aussi quelque chose de très pétillant, de très vif, dans votre manière d'aborder votre sujet, comme si vous ne vouliez pas vous appesantir et qu'il y avait la nécessité dans votre écriture d'avoir quelque chose qui danse, qui crépite comme ça. Donc je voulais vous demander évidemment quelles sont vos influences, quelles sont littéraires et comment vous pensez votre sujet. Est-ce que vous pensez à ce risque justement peut-être de, ou plutôt d'être toujours dans cette idée de contraste entre des sujets lourds et une manière légère ou en tout cas un peu vive et dansante et virevoltante parfois même de l'aborder.
Oui, c'est gentil. C'est comme les plus grands morceaux de certains compositeurs classiques sont pleins de silence. Et chaque silence fait entendre mieux la note qui le précède et qui le suit. Il ne faut pas être lourd. C'est un défaut aussi, je ne sais pas faire des livres très longs. J'ai eu peut-être de bons professeurs que je n'aimerais pas forcément ici, mais qui m'ont appris à écrire sans mots, qui m'ont appris à écrire à l'os, à fuir le déjà entendu, le déjà vu, le déjà dit. Et puis c'est un jeu d'essayer de faire revivre comme ça, par petites touches, des sons, des odeurs, des couleurs. Mais c'est comme nous, elles disparaissent dès lors qu'on en a parlé. Donc si on appuie trop sur le trait, ben ça gâche le... ça tue le sujet, quoi.
Moi, en lisant votre roman, évidemment, j'ai pensé... alors, c'est pas du tout le même ton, évidemment, mais j'ai pensé à Sérotonine. Évidemment, et notamment à ce passage, vous savez, où Houellebecq fait dire à Labrousse, son personnage... j'allais dire le héros, non, mais le personnage principal de Houellebecq. Je le cite, « Ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle, mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin sans jamais donner matière à un sujet pour BFM. » Alors, il y a quelques semaines, il y a eu le sujet pour BFM à cause de la dermatose nodulaire, mais disons que c'est quelque chose qui dure depuis, en effet, depuis un certain temps, les paysans meurent en silence.
Oui, parce que je pense que ce sont des gens très dangereux qui font très peur à nos technocrates. Évidemment, on aurait tendance... nombre de Parisiens ont un pommier en fleurs quelque part dans le cœur et ne rêvent que d'attendre la fin de la semaine pour retrouver leur morceau de campagne chéri. Néanmoins, on a toujours plus d'affection pour un paysan avec ses bottes dans la boue que pour un technocrate dans un bureau surchauffé. Et chez ces gens-là, il y a quelque chose qui relève à la fois du forçat et du seigneur. Le forçat au sens de la tirade de L'Aiglon d'Edmond Rostand, au sens de la chanson des Gueux de Jean Richepin, du pauvre Martin même de Brassens, mais des seigneurs, parce qu'ils sont riches de leur loi, de leur temps et de leur espace. Et il faut imaginer aujourd'hui ce que ça représente que l'abondance et l'autosuffisance. Ils sont complètement hors marché. On le dit à un moment donné dans un passage qui est peut-être un peu plus ébouriffant que les autres, mais qu'ils ne connaîtront jamais les horaires de l'usine, ils ne loueront jamais leurs bras, ils ne connaissent pas les congés payés. Certains ne savaient pas nager encore dans les années 70 et ne quittaient pas leur terre parce qu'elle était le lieu plein de leur épanouissement, de leur amour. Et peut-être que c'est effrayant, ça, pour un pouvoir central,
justement,
d'avoir le petit peuple à des fourches, quand même.
Justement, puisque vous en parlez, c'est un passage que j'ai trouvé très beau. Il est assez court, le lire pour nos auditeurs, ça donne un aperçu.
Allez-y,
quand même.
Voilà,
en tout cas, alors, c'est un passage particulièrement poignant. Le reste du livre est plus impressionniste et moins brutal, je veux dire. Mais bon, ce passage est très
beau. C'était une petite provocation.
Oui, voilà. Et pour justement poursuivre sur ce que vous disiez, ces orgueilleux, ces marginaux vivant de leur propre loi ne connaîtraient jamais les horaires de l'usine, ne loueraient jamais leurs bras. Leur autosuffisance et leur indépendance étaient un chiffon rouge agité à la barbe des technocrates. Le petit peuple a des fourches, il fallait l'asphyxier, le réduire, lui mettre sa terre dans la bouche. Un génocide orchestré à bas bruit. Nous avons laissé crever de faim cette poignée de rebelles qui nourrissaient tous les autres. Les campagnes, ce grand cimetière sous la lune. Autrefois, les poules se poudront devant les maisons. Autrefois, les moutons cavalant dans les rues des villages. Autrefois, le ramassage scolaire et les cris d'enfants. Autrefois, les visages burinés et les mains forcies par les outils. Autrefois, l'air pur comme une drogue et les derniers hommes libres. C'est ce passage qui est très émouvant et qui est vers la fin du livre et qui donne, alors, par rapport au livre qui est comme ça plus contemplatif et plus léger, une espèce d'arrière-plan donc qui s'exprime à ce moment-là dans toute sa violence, en tout cas.
Oui, et puis il y a la multiplication des intermédiaires aussi qui les fait un peu crever de rage. C'est vrai qu'on aurait envie de leur laisser. Bien sûr qu'il fallait des normes minimums d'hygiène, bien sûr qu'il fallait des aides, bien sûr qu'il fallait... Mais il y a de plus en plus d'intermédiaires. Un agriculteur aujourd'hui générerait à peu près 7 emplois directs. Et sur le demi-million de paysans que la France compte aujourd'hui, on estime qu'ils seront plus que la moitié dans 30 ans. C'est invraisemblable. Les cours de la viande ont perdu 30% de la valeur en 20 ans. Donc il y a un effet de ciseaux. Ils sont coincés de toutes parts. Et leur dignité en prend un coup. Certains voudraient simplement pouvoir travailler, être dignement rémunéré pour les fruits de leur travail, qui est pénible, qui est laborieux, qui est les forçats, mais aussi des seigneurs. Donc, ils savent très bien le faire, ce travail.
Rémi.
Oui, parce qu'il y a la question de la rémunération aussi qui est fondamentale. Vous parlez magnifiquement des paysans comme des derniers êtres libres, des seigneurs sur leur terre. Le drame, c'est que la majorité d'entre eux ne peuvent pas se rémunérer et vivre correctement de leur travail et doivent vivre de subventions,
mais ils veulent pas
notamment
être,
de la PAC. Et il y a un drame. Oui. De ces seigneurs qui doivent attendre la subvention de fin du mois pour survivre. C'est vraiment une situation tragique avec deux contraires qui se percutent et on ne voit pas de solution, disons, de voie de sortie entre ces deux lames de fond.
Et pourtant, ils sont doués d'un courage et d'un raffinement qu'on ne soupçonne pas, bien sûr. Il faut leur faire confiance.
On ne leur fait
il
pas.
Il faudrait pouvoir. Quelle marge de manœuvre a-t-on aujourd'hui, politiquement, économiquement il faudrait des vraies décisions. C'est vrai, il y a une autre phrase aussi dans le livre qui dit qu'à l'ère du vélo, il faudrait multiplier les révolutions en tracteur. C'est vrai que c'est sympathique quand ils sont là. On les aime, on est content de les voir, on aimerait les soutenir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à l'échelle individuelle, en dehors d'essayer de leur donner voix, comme ça . Regardez les gens
circuit court, déjà.
Oui. Circuit oui,
court. Parce que il y a la politique, les responsables politiques, la PAC, la laisse de la PAC, et donc le fait d'avoir vendu à la découpe la souveraineté française à une institution illégitime comme l'Union européenne. Il y a le Mercosur, il y a tout ça. Mais ceux qui en profitent sont, on les appelle les Leclerc, les Carrefour, les casinos, les grandes surfaces qui viennent. Qui, en plus de venir balafre le paysage, vide les cœurs de village, mais parce que les consommateurs vont là. S'il n'y allait pas, il n'y aura pas de Leclerc et le paysan vendrait sa viande, vendrait ses tomates. C'est-à-dire, moi, dans mon petit village du Périgord, j'ai un maraîcher, c'est mon voisin, je traverse la petite route et je vais m'acheter mes tomates chez lui. Je vais pas au lieu. Et il y a un Leclerc à côté et tout le monde va au Leclerc. Donc il y a quand même La sauvegarde de la paysannerie française est à portée de chacun. Absolument. Également.
Ouais, ouais.
Il y a, et voilà, je pense qu'il faut quelque chose qu'il faut répéter, c'est bah non, vous n'allez pas aller au Leclerc acheter des tomates belges au mois de janvier, et vous n'allez pas acheter des melons espagnols au mois de juin, et vous n'allez pas acheter de la bouffe transformée.
Bien sûr, les AMAP, les circuits courts. Les...
Ouais, ça existe.
Qui se développe de plus en plus d'ailleurs, quand même. Il y a une petite réaction salutaire, il y a une demande de plus en plus importante qui n'est évidemment pas majoritaire, mais c'est un mouvement qui existe. Et qui effectivement permet de répondre par le bas à une absence de politique en haut.
Oui,
de
oui, mais en fait, faveur duquel il faut plaider.
Une forme
absolument.
De protectionnisme, ouais, en fait, juste par les habitudes alimentaires, par des habitudes de consommateurs.
Oui.
Mais il y a une autre conséquence aussi, parce que vous avez parlé en effet de la diversité de nos paysages, qui est quand même cette richesse. Si on n'avait pas un pays aussi beau, les Anglais ne nous auraient pas envahis, comme disait Bainville. mais cette richesse et cette diversité existent grâce aussi à la paysannerie, parce que la terre est entretenue par l'homme. Si la paysannerie disparaît, la campagne disparaît, et vous avez beau habiter à Paris et avoir votre petite résidence secondaire, elle va crever parce qu'il n'y aura personne sur place. Merci. Parce que c'est bien d'y aller tous les 6 mois, mais le jour où il y a un problème chez vous, si vous n'êtes plus de paysans qui habitent là, ça n'existe pas. Il y a aussi le risque, en fait, même si en effet honoré est heureux, il y a quand même une tragédie, une grande tristesse quand on lit, parce qu'il y a cette relation qui va disparaître, cette vie qui va disparaître, mais derrière, c'est aussi les paysages qui vont disparaître.
Oui, absolument.
C'est une tragédie en 4D. Mmh. Romaric.
Oui, du coup, je vous écoutais.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, de vos. Beaucoup, non, pas beaucoup, mais de vos romans précédents. On a parlé de ce très, très beau livre, ce très beau roman. Donc honoré, et j'aimerais qu'on parle un peu de la littérature contemporaine, parce que c'est vrai que votre roman fait un peu figure d'OVNI, quoi. En effet, c'est un roman, vous parlez pas de vous, vous parlez pas de votre maman, de vos filles, de votre vie à vous, vous révélez pas que vous allez faire telle et telle transition, vous allez vous transformer en IA ou je sais pas quoi. Bref, c'est un vrai roman sur un sujet que vous connaissiez peu, et vous êtes allé, comme une anthropologue, enquêter sur place, rencontrer, discuter, écouter surtout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que romancière, vous êtes une lectrice de la littérature contemporaine, et notamment française ?
Oui, un petit peu. Je lis les camarades. Je lis les amis. Mmh. Je trouve ça fantastique. Je lis aussi pour écrire. Et je ne peux pas m'empêcher de relire L'amour au temps du choléra, de lire aussi les grands classiques qui sont finalement d'une modernité criante, avec un vocabulaire qu'on oublie, une langue d'une richesse inouïe. C'est comme quand on regarde des films au cinéma, on est épaté en voyant Dino Risi ou Sorrentino, enfin d'autres que simplement le cinéma français tel qu'on le connaît et qui est époustouflant, y compris encore aujourd'hui, mais de voir que les mêmes thèmes peuvent être traités avec des couleurs différentes, des sons différents. Voilà.
Alors, qui sont vos camarades ?
Je ne peux pas le dire.
Vous les lisez, vous avez le droit de dire qui ils sont.
Ouais, c'est...
Vous allez en oublier et faire des jaloux.
C'est ça.
On coupera, on dira qu'il y a eu un montage. que je vous étiez en train de parler pendant que j'essayais de déplier votre nom et que j'arrivais pas. On trouvera un prétexte, vous savez. Et dans la littérature étrangère, est-ce que vous êtes grande lectrice de littérature étrangère ?
J'ai lu pas mal les Russes, comme vous vous en doutez. Mmh. Mais bon, ceux-là, ils sont tous morts. J'ai vécu en Chine pendant un an aussi. Donc j'ai lu Moyenne, j'ai lu pas mal de littérature chinoise, qui m'a aidé d'ailleurs, parce que j'ai fait de la peinture traditionnelle, avec de l'encre et tout ça.
Oui, ça, je...
qui est assez, c'est assez redoutable d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a posé le pinceau sur la feuille de riz, l'encre de Chine ne s'efface pas. Mais il y a cette question du vide et du plein qui m'a été utile là pour les paysages de ce bouquin-là. Un peu moins l'Amérique latine, mais oui, la Chine, la Russie, beaucoup pour la littérature étrangère. Et le prochain roman sera encore plus lointain.
Alors justement, j'allais vous demander.
Oui.
Et donc, je commence à
vous êtes
à
déjà
à quelque
sur
chose
votre prochain
tout
roman.
Tout à fait différent, qui va me demander beaucoup de temps.
Ah, c'est marrant. Donc, vous publiez le troisième et vous êtes déjà en route sur le quatrième. Et vous savez sur quel sujet ?
L'islam tranquille en Ouzbékistan. Espèce de Roméo et Juliette centra-asiatique, avec les joutes équestres là-bas qui nous paraissent d'une barbarie inouïe. c'est le Bouskachi de Kessel, mais qui se perpétue aujourd'hui encore. Alors, ils ont des survêtes Adidas et tout ça, mais c'est le Moyen-Âge. Ils ont le mouton sous la cuisse, ils font de la foule à coups de cravaches. Ça s'appelle Koupkari en Ouzbékistan.
Et vous êtes allé sur place ?
Je suis allé sur place et ils ont des visages asiatiques, une langue turque et des manières post-soviétiques. Oui, et ils vont à la mosquée.
Et ils vont à la mosquée.
En ayant parfois bu un bon verre de vin. Enfin, c'est un mélange très, très surprenant.
C'est vrai, quand je me rappelle, c'est un film.
On avait vu un très beau Centaure, ça s'appelait.
Un film kirghize.
Kirghize.
Sur les centaures, donc ces cavaliers du Kirghizistan. On n'est quand même pas très loin. Et coincés justement entre cette tradition, le communisme et l'islamisme.
Oui.
Et qui se retrouve coincé au milieu
avec une identité compliquée à comprendre pour nous Européens parce qu'ils sont asiatiques, mais ils sont musulmans, mais ils sont soviétiques.
Mais ils sont turcophones. Mais l'élite parle farsi. Et puis il y a cette dialectique entre les Kirghizes qui étaient de grands nomades et les sédentaires en Ouzbékistan avec Samarkand, Boukhara.
Oui. C'est vraiment des lieux. Alors c'est encore des lieux de contraste. Vous qui aimez les contrastes.
Et donc, vous allez repartir là-bas ou c'est bon, le voyage est fait?
Non,
vous avez déjà.
Vous êtes...
faut y retourner. Ah, c'est quand même sympa ça. J'ai écrit un bouquin sur J'ai écrit un bouquin.
Là, moi, il faut travailler. Ouais,
moi, je crois que je vais devenir romancier, moi, pour les Seychelles.
Donc, je suis en train de lire la maigre littérature ouzbek qui a été traduite en français. Ismailov, etc. Days Gone By. Bon, ça, c'est en anglais. Mais je commence à essayer de rassembler. Parce que les écrivains voyageurs, très souvent, ont écrit sur ces contrées-là. Mais pour entendre, justement. La mentalité, les tics de langage des Ouzbeks.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette littérature, en effet? Alors moi, j'avoue, j'ignore complètement, je méconnais complètement cette littérature, je n'ai jamais lu un bouquin ouzbek. Comment on pourrait la définir?
Elle est très métissée, elle est très orientale, elle est imprégnée quand même de tout l'héritage iranien, perse, malgré tout. Bon, c'était la route de la soie, hein, donc il y avait des chevaux dans un sens. Et il y a une nouvelle qui m'a beaucoup touchée, qui raconte la vie d'un petit Ouzbek qui a été réquisitionné par les soviétiques, emmené en camp. Il finit par se retrouver au bord de la mer en France, après avoir été trimballé de wagons en geôle, en train, menotté, etc. Et au bout d'une dizaine d'années de ce périple, quelqu'un lui dit « Bon, bah, écoutez, maintenant la guerre est finie, on va vous renvoyer chez vous ». C'est quoi le nom de votre village ? Ben, je me souviens plus. Et il ne s'est pas rentré.
Merci beaucoup, Nanouchka von Moorkerkenland, pour votre. Déjà d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle votre troisième roman, Honoré, qui est donc publié au Cherche Midi. Merci infiniment. C'était passionnant, c'était touchant, c'était très beau. Vous parlez aussi bien que vous écrivez. Donc, on avait plein d'images. Dans les yeux de cette description de cette paysannerie française, et puis plein de tristesse aussi, puisqu'on devine qu'elle va disparaître. Chers auditeurs, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Demain, c'est Marc Hainaut qui prend le relais dans Restons Courtois. Vendredi, c'est Marc Baudrier. Et donc, nous vous souhaitons déjà un bon week-end, même si nous sommes que mercredi. Et à la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant!